21h à Bamako, 22h à Abuja et à Cotonou. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. La population mondiale augmente plus rapidement que prévu selon les Nations Unies. Amnesty International accuse le Nigeria de pratiquer la torture.
La police utilise la torture pour extorquer l'argent, par exemple. Malgré des plaintes par les victimes, il y a peu d'enquêtes sur les cas de torture et la corruption est un des facteurs qui contribue à ça.
Rubrique éducation, reportage au Bénin sur un marché dédié aux fournitures scolaires. Enfin, au Mali, on s'inquiète des conséquences de l'irrégularité des pluies sur le plan agricole. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Lola Comacchi au micro pour ce bulletin d'information. Le porte-parole de l'armée sierra-léonaise a annoncé aujourd'hui la fermeture des frontières avec la Guinée, le Libéria voisin. Cette mesure intervient alors qu'une équipe médicale militaire arrive sur le terrain pour lutter contre la maladie dans le pays. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé préconise que le nombre de personnes infectées par le virus Ebola pourrait tripler et atteindre les 20 000 d'ici le mois de novembre si les efforts contre l'épidémie ne sont pas intensifiés. Lors des discussions à New York avec la présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza, le secrétaire général de l'ONU a souligné l'importance cruciale d'un processus politique inclusif dirigé par les Centrafricains eux-mêmes. Ban Ki-moon a souligné lundi qu'une entente globale formelle était nécessaire pour entreprendre des réformes essentielles de gouvernance, y compris en ce qui concerne le secteur de la sécurité, le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants. Encourageant la poursuite des efforts dans la campagne de sensibilisation sur la prévention de la violence sexuelle liée au conflit en Centrafrique, M. Ban a appelé la présidente de transition à appuyer pleinement la mise en œuvre des mesures d'urgence prescrites par la résolution 2149 du Conseil de sécurité. Selon l'ONG américaine de protection de la faune Wildlife Conservation Society, le braconnage des éléphants au Mozambique prend une ampleur sans précédent, indique l'AFP. C'est dans l'extrême nord du pays. 22 éléphants ont été tués en 2 semaines, début septembre, dans le parc national de Niassa, a indiqué à Maputo Carlos Parreira, un membre de l'organisation new-yorkaise.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le président Barack Obama a annoncé que les États-Unis et leurs partenaires de la coalition ont lancé des raids aériens contre les militants islamistes en Syrie dans un effort pour éliminer les sanctuaires des terroristes. Lionel Gaïma.
Parlant à la Maison Blanche avant son départ pour New York et ses réunions à l'ONU, M. Obama a expliqué que ces frappes visaient des membres endurcis d'Al-Qaïda, ceux du groupe Khorasan qui planifiait une attaque imminente contre les États-Unis. Il doit être clair que pour quiconque complote contre l'Amérique et tente de s'en prendre à des Américains, que nous ne tolérerons pas des sanctuaires pour terroristes qui menaceront notre peuple. Ces frappes incluaient d'autres cibles. Bahreïn, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et les Émirats Arabes Unis ont appuyé cette campagne aérienne qui a endommagé ou détruit des camps d'entraînement des militants de l'État islamique, ainsi que le quartier général et un centre financier du groupe. Pour M. Obama, ces 5 nations arabes sont des alliés dans la lutte contre ces militants.
La strength of this coalition makes it clear.
La force de cette coalition démontre clairement qu'il ne s'agit pas simplement du combat de l'Amérique, a ajouté M. Obama. Selon un groupe d'observateurs, ces dernières frappes aériennes ont tué 120 militants islamiques en Syrie.
Le chef de la rébellion chiite, Abdelmalek Al-Houthi, crie victoire ce mardi dans un discours télévisé. Alors que ses militants contrôlent quasiment toute la capitale, Sanaa, les partisans de Houthi se sont emparés dimanche de la plupart des bâtiments publics et des bases militaires stratégiques de la capitale. Il s'agit du premier discours du chef des Haïdites depuis la signature dimanche d'un accord de paix parrainé par l'ONU. L'accord prévoit la formation d'un nouveau gouvernement. Mohamed Al-Bacha, porte-parole du gouvernement yéménite à Washington, a dit à la VOA que le président Abed Rabu Mansour Hadi avait opté pour l'accord de paix afin d'éviter un conflit étendu qui aurait fait de nombreuses autres victimes. Fin de ce bulletin d'information, Claire Morin-Gibourg vous retrouve pour la suite de Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel+ sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission avec une nouvelle étude des Nations Unies et de l'Université de Washington. La population mondiale augmente plus rapidement que prévu. Elle devrait atteindre quelque 11 milliards de personnes d'ici à 2100. Plus d'explications avec Michel Joseph.
Actuellement, cette population est de 7 milliards environ. Ces 20 dernières années, les experts avaient prédit qu'elle irait jusqu'à 9 milliards avant de commencer à se stabiliser, voire baisser. Mais utilisant les méthodes les plus modernes de recherche, les statisticiens parlent maintenant de près de 11 milliards d'habitants d'ici à 2100. Ces nouveaux chiffres tiennent compte de données gouvernementales et des prévisions des experts sur les taux de mortalité, les tendances dans le domaine de la fertilité et la migration internationale. C'est en Afrique que l'on verra vraisemblablement la plus grande croissance démographique. La population de ce continent passera, selon la nouvelle étude, de 3 milliards 500 millions à 5 milliards 100 millions au cours des 85 prochaines années. Explication de John Wilmuth, directeur de la division Population de l'ONU. Monsieur Wilmuth explique que, contrairement à ce que pensaient les chercheurs, on n'a pas vu en Afrique les mêmes tendances que dans les autres régions du monde, soit un taux plus bas grâce à un plus grand recours aux méthodes de contrôle des naissances. En Asie, la population devrait passer de 4,4 milliards à 5 milliards d'ici à 2050, tandis qu'elle devrait rester inférieure à 1 milliard en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et dans la Caraïbe. Mais M. Wilmuth ne s'inquiète pas quant à la possibilité de faire face aux besoins alimentaires d'une population croissante. La production de vivres, dit-il, a de façon générale été supérieure à la croissance démographique ces 50 dernières années.
Nous sommes au Nigeria pour notre dossier. Le Nigeria qui est accusé par l'ONG Amnesty International de fermer les yeux sur la torture pratiquée dans le pays, alors que celle-ci est bien interdite dans la Constitution. Le Nigeria a par ailleurs ratifié divers traités internationaux prohibant cette pratique. Pour plus de précisions, Camille Gros-Didier a joint à Dakar le directeur régional d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Steve Cockburn.
D'abord, la torture se fait dans les endroits secrets pour punir les détenus, extraire les œuvres ou extorquer de l'argent. Et ces méthodes incluent, parmi d'autres, l'arrachage de dents et d'ongles, les décharges électriques, l'étranglement, la torture à l'eau et la suspension par le pied. Et très souvent, les détenus sont régulièrement battus avec les coups de fouet, des bâtons, des câbles et d'autres choses.
La corruption est-elle un facteur dans ce recours à la torture?
La corruption présente parmi les forces de sécurité, c'est un facteur très important dans le recours à la torture. Beaucoup de victimes nous ont dit que la police utilise la torture pour extorquer l'argent, par exemple, après avoir accusé les détenus de vol à l'usage d'armes. Ça figure aussi dans l'impunité qui existe autour de la pratique de torture. Malgré des plaintes par les victimes, il y a peu d'enquêtes sur les cas de torture et la compensation est extrêmement rare. Et la corruption est un des facteurs qui contribue à ça.
Alors, pourquoi les forces de l'ordre bénéficient-elles d'une telle impunité?
Bon, il y a plusieurs raisons. On dit que la corruption est un climat d'impunité dans les forces de sécurité plus généralisées. Les conditions de détention dans les endroits secrets et sans accès à l'avocat, ça facilite la pratique de torture. Il y a aussi une manque de volonté par le système judiciaire de prendre en sérieux les accusations de torture dans les tribunaux. Souvent, les accusations de torture sont traitées par les enquêtes policières et militaires à long terme, qui n'assurent ni l'indépendance, ni la transparence, ni la rigueur nécessaire. Et cette approche est à l'encontre de la Convention de Tokyo, dont le Nigeria fait partie.
Mais quelles sont les carences du système judiciaire qui facilitent ce recours à la torture?
Il y a plusieurs carences dans le système judiciaire qui facilitent la torture. Il y a d'abord le fait que les garanties dans la loi nigérienne ne sont pas mises en œuvre. Une détenue nigérienne doit avoir l'information sur son arrestation, avoir accès à un avocat, de pouvoir contacter sa famille. Mais en réalité, ces droits ne sont pas réalisés. Les détenus sont dans des endroits secrets, sans accès à l'avocat et sans pouvoir contacter les familles. Normalement, ça peut protéger les victimes de torture. Il y a aussi un manque de volonté d'ouvrir et poursuivre les accusations de torture avec les enquêtes indépendantes, rigoureuses. Et aussi, il y a un manque législatif. Depuis 2 ans, il y a un texte de loi pour criminaliser les tortures qui est en attente d'examen. Et c'est essentiel que le gouvernement nigérien adopte cette loi et poursuit les agents de torture en justice.
Steve Cockburn, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Nous sommes au Bénin aujourd'hui pour notre rubrique éducation. La vente de fournitures scolaires donne lieu à un marché spécial qui s'anime avec effervescence à Cotonou, dans la capitale économique du Bénin, à la veille de chaque rentrée. Pas d'exception cette année. Notre correspondant Peggy Ludovic Dagba a fait le déplacement.
À l'approche de la rentrée scolaire chaque année, s'ouvre à Cotonou un marché temporaire, celui de la vente des fournitures scolaires. Au départ embryonnaire, ce marché s'est agrandi au fil des ans et aujourd'hui impose une multitude de stands et offre divers articles scolaires aux parents d'élèves qui ne demandent pas mieux.
Là, j'ai pris les cahiers TP, cahiers de 100 pages, cahiers de 200 pages, des vrais dessinateurs, des règles à tracer. Ça me faisait à peu près 13 000 francs. Le prix est abordable parce que les TP, c'était des TP cartonnés. Le prix est abordable.
Au niveau de kaki, là, j'ai l'air dit au moins de voir le prix un peu à la baisse, au moins si c'est à 1300, le pantalon à 1400. Bon, par rapport au baba qui se promène, on a les mêmes prix là-bas, et on vient ici avec, on a aussi les mêmes prix. C'est par rapport à ça que j'ai discuté un peu avec eux.
Je viens de dépenser dans les environs de 30 000.
Pour combien d'enfants?
3 enfants. Il doit rester les livres que les professeurs vont peut-être demandé au cours de l'année scolaire. L'école aujourd'hui, c'est l'argent, on ne peut rien.
Une foire dite foire de la rentrée s'est même implantée au centre de promotion de l'artisanat en plein cœur de Cotonou. Son commissaire général nous parle ici du coût de ses produits. Cyprien Haïté.
Ici, le cahier de 100 pages est vendu à 900. Le plus bas, c'est 900. 900 francs le paquet, ça fait 90 francs l'unité. Nous avons les cahiers de TP qui sont cédés à 375 400 francs. Au niveau de chaque maternelle, il y a 4 livres. Il y a réussi l'écriture, le dessin, la prix mathématique qui sont cédés à 800 au niveau de réussir le dessin, l'écriture et 1200 par rapport au réussi la prix mathématique. Les prix sont moins élevés par rapport aux produits puisque nous avons pris en compte les plaintes des parents par rapport à l'année dernière.
L'activité est rentable si le public se bouscule au portillon. Malheureusement, tel n'est pas encore le cas. Mais Cyprien Haïté ne désespère pas.
Par rapport à l'année dernière, nous n'avons pas encore décollé. Puisque, bon, selon les rumeurs, la rentrée a été repoussée.
Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour La Voix de l'Amérique.
Nous sommes au Mali pour terminer l'émission où l'irrégularité des pluies cette année fait peser beaucoup d'inquiétudes sur la saison agricole 2014-2015. Face à cette situation, les agriculteurs et les producteurs se sont préparés pour la contre-saison en mettant l'accent sur les cultures vivrières notamment et en se basant sur les retenues d'eau, ce qui devrait leur permettre de mieux surmonter le manque de pluie. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Depuis le début de la saison hivernale, saison agricole au Mali, car cette activité est tributaire de la pluie. La pluie se fait rare, d'où l'inquiétude chez les paysans. Dans la zone office du Niger, zone de culture du riz par excellence, l'absence de pluie n'est pas un souci. Ilias Gouro, président directeur général de l'office du Niger.
Pour ce qui est de l'office du Niger pour la campagne 2014-2015, l'office du Niger envisage d'enlever 110 000 hectares pour une production de 693 000 tonnes de paddy. Prévoyons également des surfaces maraîchères, disons, de près de 17 000 hectares, des superficies de riz, des superficies de maïs de 720 hectares et des superficies de mille sorgho de 2500 hectares. Nous prévoyons une production totale, disons, de 771 000 tonnes de paddy.
Dans la région de Koulikoro, la saison avait bien démarré. Mais de nos jours, les paysans voient deux fois la pluie dans la semaine.
Globalement, nous sommes à 884 000 hectares de réalisés. Et l'aspect des cultures, vraiment, en cette période, est bon dans l'ensemble.
Les paysans, aujourd'hui, se transforment en paysans professionnels. Cette professionnalisation amène à faire beaucoup de superficie, à appliquer les techniques qu'il faut pour que les rendements puissent être augmentés et assurer vraiment notre suffisance alimentaire.
Contrairement à la région de Kaye, c'est le fait même que la saison a accusé du retard. À cela, il faut ajouter la rareté des pluies. Les paysans ont jeté leur dévolu sur les retenues d'eau pour tenter de sauver la saison.
La campagne est à deux niveaux chez nous. Sur la partie nord, les labours semis viennent de commencer, tandis que dans la partie sud, c'est en pleine végétation.
Le volume de la pluviométrie vraiment cette année, si on voit même les cours d'eau, il n'y a même pas d'eau dans les cours d'eau. Alors que certaines localités, leur force, c'est à partir des décrues.
En faisant le tour des différentes zones agricoles du Mali, le ministre du Développement Rural ne désespère point. C'est pourquoi il mise sur les cultures dans les périmètres aménagés. Bokari Treta.
Je voudrais bien espérer que les producteurs vont pouvoir exploiter ces périmètres pour la campagne, au moins c'est la contre-saison 2015-2016 et la véritable saison 2016-2017. Nous sommes en train de nous investir pour que du niveau national, où non seulement cette vision est partagée et mise en œuvre, vraiment donc nous voulons trouver son reflet au niveau régional.
Face à cette situation, les paysans, agriculteurs et producteurs sont en train d'échanger le fusil d'épaule en préparant la contre-saison tout en se basant sur les retenues d'eau. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation et à la technique, Michel Joseph. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Ina Modja qui chante C'est la vie. Take off the blind, can't wait till it's over. Ain't got a dime, I'm hoping for change. Been fighting time, can't stop getting older. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous. La vie, ain't it true, how it grabs a hold of you, it's a mess, just a test, so I'll do what I can do, so I'm alive, this thing till it's over, ain't gonna hide, it's out of my hands, been fighting time, can't stop getting older, you go up, you go down, and the world rolls around, so keep on rolling. So keep on growing.
je brûle ma vie de tous les côtés, fume à volonté. Je lève mon verre de rouge ou de saké gin à ma santé.